Bienvenue sur Microstandard.
Tiens, bon là-bas.
Pas de bazar.
Rien que des bavards.
Il y aura pas de lézards.
Juste quelques bobards.
Hasard.
Rancard.
Tard.
Zona.
Espoir.
Regard.
Trop tard.
Zanzibar.
Pas de bagarre.
Tiens, bon là-bas.
Zona.
Rancard.
Bienvenue sur Microstandard. Cette fois-ci dans l'émission, Nadine et Maria nous proposent d'aller à la rencontre des chiffonniers de la joie. Ensuite, la recette de Mme Goulette suivra la rubrique littéraire de Maria. Je vous ferai partager pour ma part ma passion du football. Et vous retrouverez Anna dans le conte du crochet magique. Mick et Anna se sont penchés sur l'expression « poireauter 107 ans ». Et pour finir, nous vous parlerons de l'actualité de Standard. Après Peter Gunn, nous retrouverons Maria et Nadine.
Nous voici à la communauté des chiffonniers de la joie, au 23 Allée Saint-François à Saint-Martin-des-Champs. Nous allons rencontrer Isabelle Augès, la directrice, des bénévoles et des clients. Bonjour, Maria de Microstandard.
Bonjour, je suis Isabelle Augès, directrice des Chiffonniers de la Joie depuis presque 5 ans. L'association Les Chiffonniers de la Joie existe depuis 25 ans, depuis 1984. Elle s'est installée sur Morlaix depuis, on va dire une petite dizaine d'années. Et c'est à ce moment-là que l'équipe d'encadrement s'est professionnalisée. Nous sommes 5 salariés actuellement. Donc il y a moi qui suis directrice et éducatrice spécialisée. Mon collègue Cédric qui est moniteur éducateur. décorateur, Gilda, qui est éducateur technique spécialisé en menuiserie, Laurence qui cuisine et Fabienne qui est secrétaire comptable. Donc voilà, toute cette petite équipe aidée de bénévoles accueille des personnes en difficulté sociale et professionnelle. Donc toute personne âgée de 18 à pas d'âge peut être accueillie au chiffonnier de la joie en fonction de ses difficultés. Et on accueille également en convention avec le ministère de la Justice des personnes condamnées à des peines inférieures à un an en placement extérieur ou en bracelet électronique et également des personnes en travail d'intérêt général. Voilà, on les accueille sur divers ateliers, on va récupérer des meubles chez les gens, on les retape sur les ateliers, on les remet en vente et les personnes qui sont accueillies par un principe d'échange de services participent à ces ateliers-là en contrepartie de leur hébergement et de leur nourriture et puis etc. quoi. Donc voilà à peu près ce qu'on fait.
Quelle est la capacité d'accueil et d'hébergement de la communauté ?
Alors, on peut accueillir 11 personnes sur des chambres individuelles, donc sur l'auberge qui est située dans le centre-ville de Morlaix, aux 3 routes de Paris. Donc chacun a sa chambre et peut avoir accès à une cuisine collective, un petit jardin, etc. On peut accueillir également des personnes en journée, donc ce sont des personnes qui sont retraitées ou qui n'ont pas d'emploi ou qui ont besoin de se rendre utile sur une association, de s'engager, de militer avec nous au chiffonnier. Et donc, qui viennent grossir ces 10-11 personnes qui vivent au chiffonnier. Donc, on peut se retrouver sur des temps de grande vente 3 fois par an à peu près 30 personnes. Et sinon, au quotidien, on est 15-20 personnes tous les jours, ici à peu près.
Combien de temps restent les compagnons ?
Alors, cela varie. Ça dépend de leurs besoins, de leurs difficultés, de leur âge aussi. On va dire que les jeunes restent généralement plus longtemps. Ils peuvent rester, on va dire, de 8 mois à 1 an et demi, selon leurs difficultés et puis leurs projets. Les personnes un petit peu plus âgées restent moins longtemps. On va dire qu'au bout de 8, 9 mois, 10 mois, ils sont prêts à partir et prendre un hébergement sur Morlaix ou bien aux alentours.
La mixité est-elle importante ?
La mixité, elle est indispensable. Depuis quelques années, on voit de nombreuses femmes arriver en tant que bénévoles et accueillies. Elle est importante dans le sens où elle change les modes de relation. C'est moins sur la confrontation, sur le rapport de force. Là, on se retrouve plutôt sur des relations plus douces, plus dans la négociation, dans la rencontre. Et ça vient apaiser les tensions, les moduler un petit peu et puis les varier surtout. L'association est ouverte aux femmes, évidemment, et là, on se retrouve avec un groupe où, on va dire, presque la parité est respectée, puisque on peut accueillir jusqu'à une quinzaine de femmes entre les personnes bénévoles et puis les personnes hébergées. Il y aura un groupe total de 30 personnes, voilà, on peut dire que c'est 50-50, donc ça me plaît.
Comment définiriez-vous cet endroit ?
Alors, les chiffonniers de la joie, c'est déjà un lieu atypique, puisqu'on est autofinancé. C'est rare pour être souligné, puisque les associations autofinancées, autogérées comme la nôtre, moi, j'en connais pas beaucoup. Elle est atypique aussi dans le sens où j'aime à penser qu'on arrive à organiser l'association sur un mode plutôt collectif, participatif et démocratique, où la hiérarchie, elle est effacée, où elle n'existe presque pas, parce que, évidemment, dans chaque groupe, il faut quand même organiser et puis et mener et puis donner un rythme. Donc voilà, il y a des personnes qui savent mieux le faire, donc ils le font. Elle est atypique dans ce sens-là où c'est convivial, il y a un esprit aussi familial que j'aime apporter, puisque cet esprit-là correspond aux besoins de toute personne accueillie ici au chiffonnier de la joie, qu'il soit accueilli, hébergé ou bénévole ou simple passant ou client. Donc c'est cette qualité-là et cette valeur-là que moi j'aime retrouver dans l'accueil qu'on peut réserver ici à toute personne qui passe.
Combien de personnes ont pu se réinsérer après leur passage ici ?
C'est une question difficile. Les chiffonniers existent depuis 25 ans, je disais tout à l'heure. Donc il y a environ aujourd'hui 25-30 personnes par an qui passent par les chiffonniers de la joie. Donc voilà, à vous de faire les calculs maintenant. C'est pas évident, on n'est pas des magiciens non plus. À un moment donné, quand les personnes sont là, on répond à leurs besoins, on mène avec eux leurs projets. Après, c'est aux personnes de jouer aussi. Oh, chérie Faluna. Hey, hey.
mes impressions de Paris. Même si je retrouve mon confort, j'ai toujours le mal de l'Algérie. Toutes ces belles images en tête et ces moments d'émotion et de peine. Je reviendrai.
Voilà de retour à Les Chiffonniers.
Nous sommes alors en compagnie de la responsable des ventes Bibelots et Vaisselle. Bonjour Monique.
Bonjour.
Que vous apporte le bénévolat au sein des Chiffonniers de la Joie ?
Je suis arrivée aux Chiffonniers de la Joie, non pas par hasard, par obligation. Donc je connais les Chiffonniers depuis 2 ans et demi. Et ça a été pour moi un tremplin pour la réinsertion. Donc j'ai continué à être bénévole. Et ça m'a permis de connaître plein de personnes qui m'ont apporté plein de bonnes choses.
C'est plutôt le contact avec les clients qui vous plaît
Le contact avec les clients, je l'avais déjà eu auparavant de par mon métier, puisque j'étais dans le secrétariat. Donc j'avais déjà ce contact-là, mais c'est un contact particulier, c'est une clientèle particulière. Donc il y a beaucoup de gens qui viennent pour parler simplement, donc c'est un échange en même temps. C'est un commerce pas comme les autres, les chiffonniers, donc c'est un échange d'idées et on s'apporte mutuellement du réconfort et parce que bon, c'est important aussi dans la vie, il n'y a pas que le côté financier, il y a le côté contact humain et rapport humain qui est important.
Nous sommes en ce moment dans les locaux du bric-à-brac des Chiffonniers de la Joie, en compagnie d'une bénévole. Bonjour Marie-Claude.
Bonjour à toutes les deux, bonjour Maria, bonjour Nadine.
Que vous apporte les chiffonniers ?
Tout. Ça porte bien son nom, les Chiffonniers de la Joie. Ben, la joie, je savais bien que ça existait, je la ressentais de temps en temps, mais ici, c'est une joie permanente. Quoi.
Qu'est-ce qui vous plaît autant de venir ici régulièrement travailler ?
Il n'y a aucune différence entre les personnes qui sont là, il n'y a on se pose pas de questions et puis bon, ben, y a pas de différence, il y a pas de jugement. Bon, ben, quelquefois, comme dans toute communauté, il y a des embrouilles, mais c'est plus léger, quoi, on passe au-dessus.
De quel atelier vous occupez
Je fais le tri des livres. Donc, quand on les reçoit, je les trie. Une partie, donc, ceux qu'on n'utilise pas vont à la Terre d'Espoir. Même en dehors des grandes ventes, régulièrement, les livres y sortent. Bon, c'est pas régulier, c'est comme l'événement, mais sûr, ça sort régulièrement. Mais les livres, pas forcément, mais si, il y a de très bonnes ventes. Hein. Je devrais approvisionner les étagères, les tables régulièrement. Donc, c'est que ça sort. Et puis, bon, on essaie de mettre des livres propres quand même. Donc, ça compte beaucoup aussi. On n'a pas n'importe lesquels, quoi. Et qui sont sales, non, je fais un tri, hein, donc voilà.
Nous sommes donc en compagnie de deux clients des Chiffonniers de la Joie au rayon d'événements. Est-ce que vous venez souvent ici ?
Oui, ça nous arrive souvent de venir.
Et que recherchez-vous en particulier ?
Bon, c'est une sortie, une balade, et puis on trouve des choses originales.
Quel genre de choses en particulier ?
Des choses anciennes, En fait, c'est le coup de cœur.
Mais c'est plutôt l'événement qui vous intéresse ou c'est divers ?
Non, c'est divers en général, je m'intéresse à tout.
Nous sommes en compagnie d'un bénévole de l'atelier bois. Bonjour Mickaël.
Bonjour.
Que vous apporte le bénévolat ?
Ça m'occupe mes journées parce que j'ai eu un grave accident aux jambes, j'ai été brûlé au 3e degré. Et puis au moins ça me permet d'occuper mes journées plutôt que de rester chez moi, rien faire, voir du monde et faire quelque chose de mes mains, quoi. Là, j'ai rencontré Gilda, on va dire le professeur entre guillemets. Vu que je suis quelqu'un qui travaille dans le bâtiment en temps normal, il a vu que je savais faire les choses avec mes mains. Et il m'a appris beaucoup de choses, notamment dans le bois. Donc maintenant, les métiers du bois, c'est tout ce que je connais, c'est Gilda qui me l'a appris, quoi.
Nous sommes avec la bénévole qui s'occupe de la vente d'événements. Bonjour.
Bonjour.
Depuis combien de temps travaillez-vous au sein des Chiffonniers de la Joie ?
Mais cela va faire cet été 2 ans.
Que vous apporte votre contribution au sein des Chiffonniers de la Joie ?
Beaucoup de plaisir, la rencontre des personnes, puis c'est très agréable. Ça me plaît énormément.
Nous nous trouvons actuellement dans l'atelier bois avec un de ses salariés.
Oui, bonjour. Alors, je suis Gilles Tanguy, je suis éducateur technique spécialisé. J'encadre et j'anime l'atelier de restauration de meubles au sein des Chiffonniers de la Joie. Cette activité se passe sur la semaine, donc du mardi après-midi, mercredi, jeudi, vendredi et le samedi. Donc on est équipé essentiellement de machines-outils, tout ce qui est classique, menuiserie, combiné bois, scie à ruban, enfin tout ce qui est petit outillage, scie, ciseaux à bois, etc. Donc tout ça sert pour l'atelier de menuiserie et d'ébénisterie. Les personnes accompagnées au sein des chiffonniers sont des personnes en situation d'exclusion, donc il y a des personnes de tout horizon, chacun avec sa problématique. Et actuellement, tout se passe plutôt bien, même tout le temps. Même si c'est vrai qu'il arrive d'avoir des moments pas toujours roses. Qu'elle est porteuse de plein de choses. Des gens se projettent sur l'avenir. Et le chantier, en fait, se trouve près du bassin Morlaix, au centre-ville. Donc l'atelier de restauration de meubles est au centre de ce chantier. Donc ce qui favorise aussi l'échange avec les personnes, avec les clients qui viennent le mercredi après-midi et le samedi. Donc les personnes que j'accompagne, ce que je peux constater, c'est qu'elles se débrouillent très bien, qu'elles sont demandeurs d'activité, et que je peux voir qu'au quotidien ça fonctionne plutôt bien. Elles s'épanouissent, elles me surprennent et se surprennent elles-mêmes de par les techniques qu'elles acquièrent. Donc on a pas mal de travail parce qu'il y a beaucoup de meubles et d'objets qui sont ramenés et qui sont à remettre en état, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on ramène qui ne sont pas forcément en bon état. Il y a 3 grandes ventes dans l'année. Tout ce qu'on a comme plus beau mobilier, tout ce qui est commode, armoire, on les refait, on les met en vente. On a des personnes qui se découvrent des affinités avec le milieu du bois. C'est vrai que le bois c'est ouvert à plein de choses, plein de domaines. On peut, en entrant ici, on rentre dans un univers. Enfin, le bois, ça peut aller de la lutherie au chantier, à la charpente navale. L'avantage aussi, c'est que j'ai une bonne pratique professionnelle de ce métier. Avant d'être éducateur technique, j'ai exercé le métier de menuisier ébéniste pendant plusieurs années. Donc ça me permet de transmettre un savoir et aux personnes de mieux s'approprier ce métier. Ça développe en eux plein de projets, et puis ça leur permet de découvrir un univers qu'ils ne connaîtraient pas autrement.
Nous sommes ici avec un client. Est-ce que vous venez souvent ici ?
Ben, en effet, non. Non, rarement. Je vais passer par ici il y a peut-être 5 ans, assez souvent, mais maintenant, non, j'ai pas le temps de passer. C'est par hasard que je passe aujourd'hui.
Et quand vous passez par hasard, c'est pour chercher quoi en particulier ?
Quelque chose qui n'est pas trop cher, qui me fait plaisir. Comme tu as vu que j'avais acheté ce tableau qui est en très mauvais état, mais comme je suis artiste peintre, peut-être je peux faire quelque chose.
À table !
Ça sent le brûlé ici.
Chaud devant. C'est quand qu'on mange?
Quelle est la recette du jour?
Tiens, voilà ma boulette qui sort de sa cuisine. Encore une nouvelle recette.
Les nuages. Prendre 3 jolis nuages. 1, 2, 3. Soufflez, soufflez fort. Montez-les haut dans le ciel, dans un énorme jar. Ensuite, donnez-leur des noms comme Sirius, Cumulus et Nimbus. Tiens, ils se terminent tous en us. Il manque quelque chose comme de l'eau pure et claire. Vous l'entendez, elle arrive. Un tuyau à gauche puis droite, la voilà. Prendre une grande échelle qui monte, monte jusqu'au ciel. Alors maintenant, à mon signal, 1, 2, 3, ouvrez le robinet qui gloupe, gloupe, que c'est joli. Les nuages sont heureux, ils se laissent arroser. Mais le soleil brille 3 minutes. Pas plus, il a un rendez-vous. Des oiseaux reviennent par milliers pour voir ce spectacle. Et de l'eau par-ci et de l'eau par-là. Que d'eau, elle monte puis redescend, comme le flux et le reflux de la mer. Voilà, le calme reprend le dessus. Les oiseaux sont partis et le soleil lui aussi est parti. Il reste que les 3 nuages. Ils ont passé un bon moment. Voilà des nuages qui vécurent heureux et eurent beaucoup de petits quoi. Nuages, bien sûr. 1, 2, 3, c'est toi.
Et voici un nouveau titre d'Octopus Café, Rosin de Canitu, que nous avons découvert avec Martine Quéré dans notre précédente émission.
Dans le vent chargé de sel, c'est le déclin de l'été. Dans le vent chargé de sel, une alouette a chanté. Un chant d'amour au soleil, au seuil du pays perdu. D'amers regrets sans pareil, pleurer rose une kernitue. Inni laga de liumen, e chagoula zagablo. Inni laga de liumen, e ma gueller entrezio. Belle da son fig bardon, aranzotta vetersu. Rena reyes agrezo, dormi grosen kernitu. Ses yeux gris de caillou, jadis d'ambre et d'or vivant. De ses yeux gris de caillou, où l'un désert de chiens dents. Comme un écho tendre et vain, le chant de l'oiseau s'est tu. J'ai senti frémir la main de la rose kernitue. Vénérez pas lui d'amour, agutuyez un ascol. Vénérez pas lui d'amour, héroas d'intesisto. Aimeras d'aller à sauver, disquar un oiseau héru. Car et toi ne oui vengé, car la rose kernitue. Sur la palue de la mer, elle a cueilli le chardon. Sur la palue de la mer, me l'a donné en pardon. C'est trop tard de bien des ans, le temps d'automne est venu. Je n'ai pas su qu'au printemps, mais mes roses kernitues.
Place à la rubrique littéraire de Maria.
Tristan Garcia, La meilleure part des hommes, un roman paru chez Gallimard. Pour un premier roman, c'est un coup de maître. Dominique Rossi, ancien militant gauchiste, fonde à la fin des années 80 le premier grand mouvement de lutte et d'émancipation de l'homosexualité en France. Willy, un écrivain scandaleux, va en tomber amoureux. Ils s'aiment, se haïssent et finissent par se détruire. C'est un roman très émouvant, parfois même très dur, avec des scènes parfois insoutenables, car n'oublions pas que les années 80, ce sont aussi les années sida, avec tous ses ravages. Les personnages, aussi cruels soient-ils, restent néanmoins très attachants. Mon deuxième coup de cœur, Trac en haute mer, de François Ferbos, aux éditions Le Télégramme. L'auteur François Ferbos a fait carrière dans la police, de Strasbourg à la Nouvelle-Calédonie. En passant par la Bretagne, il s'est frotté de près au trafic de stupéfiants, puis au terrorisme. Trac en haute mer est son premier roman. C'est un roman maritime. L'histoire. Vincent Lafargue, brillant commissaire de police en Bretagne, voit sa vie basculer le jour où sa femme, violemment agressée, se retrouve entre la vie et la mort. Beaucoup de suspense à lire absolument. Pour finir, un roman signé Olivier Adam, À l'abri de rien, aux éditions de l'Olivier. La vie de Marie est bouleversée le jour où elle rencontre des Kosovars. Négligeant sa famille, elle décide de porter secours à tous ses réfugiés et de tout leur donner, nourriture, vêtements, temps, argent. Entraînée par une force irrésistible, elle s'expose même au danger d'y laisser sa peau. Avec ce roman, Olivier Adam nous rappelle que la violence qui frappe les plus faibles est l'affaire de chacun.
Notre vieille terre est une étoile, où toi aussi tu brilles un peu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Tu n'as pas de titre ni de grade, mais tu dis-tu quand tu parles à Dieu. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Journaliste pour ta première page, tu peux écrire tout ce que tu veux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Je t'offre un titre formidable, la balade des gens heureux. Toi qui as planté un arbre dans ton petit jardin de banlieue, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Il s'endort et tu le regardes, c'est un enfant, il te ressemble un peu. Je viens lui chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Toi la star du haut de ta vague, descends vers nous, tu nous verras mieux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Roi de la drague et de la rigolade, rouleur flambeur ou gentil petit vieux, je viens te chanter la balade des gens heureux. Je viens te chanter la balade des gens heureux. Comme un cœur dans une cathédrale, comme un oiseau qui fait ce qu'il veut. Tu viens de chanter la balade des gens heureux. Tu viens de chanter la balade des gens heureux.
Et maintenant, je me laisse aller à vous donner mon point de vue sur le foot.
Le football, sport le plus populaire en Europe, déchaîne les passions. Il peut être à la fois émotion, haine, racisme. Il y a beaucoup d'enjeux sociaux et aussi politiques. Il déchaîne l'enthousiasme et rassemble les humains. L'OM ne représente-t-il pas l'identité de la ville pour ses habitants, qu'ils soient blancs, africains,
asiatiques ou arabes. Tous se reconnaissent dans les couleurs de leur club fétiche. On peut en dire autant pour le Racing Club de Lens pour les ch'tis. Le football est comme une âme. C'est la vitrine de l'histoire d'une ville, d'une région, d'un pays. C'est un puissant vecteur de joie, de tristesse, mais aussi d'espoir pour tous les supporters d'un club. Le stade est le théâtre d'une communion profonde pour des milliers de personnes pour lesquelles le score final est attendu. On se souvient tous des larmes de Basile Boli lors de la finale de la Coupe des clubs champions en 93 face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Mais on se souvient à contrario de son allégresse en 93 à Munich lors de la finale de la Coupe des clubs champions face au Milan AC. Et que dire de la vague émotionnelle, que dis-je, du tsunami émotionnel après la victoire de la France en Coupe du Monde 98 et 1, et 2, et 3 à 0. La ferveur, les chants, les cris qui montent au-dessus des groupes de clubs de supporters qui rassemblent différentes couches sociales. Mais ce sport tant aimé par les petits et les grands peut aussi véhiculer une certaine violence, une certaine haine qui traduit un racisme exacerbé chez certains pseudo-supporters. L'antagonisme légitime des supporters de différents clubs peut se traduire par des insultes, des bagarres parfois très graves. On a vu aussi des joueurs un peu basanés être accueillis par des cris de singes, des signes nazis, fascistes, surgir des gradins. Nous avons encore en tête cette violence qui a conduit à la catastrophe du Yezel dans les années 80, et plus près de nous la mort du supporter Brice à Toulouse. Cette ferveur populaire autour du football est aussi récupérée par le monde politique, à tous les niveaux, dont le dernier exemple est la fusillade contre l'équipe du Togo lors de l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Comment peut-on s'imaginer qu'une revendication politique finisse en mitraillage lors d'un quart de footballeur ? Le football est trop souvent pris en otage. Quelle image cette violence donne-t-elle à tous les enfants de 4-5 ans que le foot fait pourtant rêver ? Beaucoup de footballeurs sont des dieux pour tous ces jeunes. Et il devrait être irréprochable. Pour résumer, je dirais que le football est un reflet fidèle de notre société, avec ce qu'elle génère de positif, mais aussi de négatif. Mais le stade est aussi un lieu d'expression des revendications, alors qu'il ne devrait rester qu'un lieu où des hommes s'amusent comme des enfants.
Quelques mots sur le bilan du Mondial 2010.
Personnellement, j'ai déjà vu l'histoire. Quel héritage du Black Bomber ? D'un système d'intégration 1998 à un système de désolation 2010. Lamentable. Il n'y a plus d'âme, plus d'équipe, plus rien d'ailleurs. Mais passons. L'Afrique, c'est ça qui compte. L'Afrique qui ressort pour la première fois cette compétition. Le Cameroun, le Ghana, la Côte d'Ivoire aimeraient tellement la gagner. Un septième ciel. Ce serait une belle cerise sur le gâteau. Et les clubs sud-américains, argentins, brésiliens, ou les clubs européens, anglais, espagnols, hollandais, ne l'auront pas de cette heure-là. Faisons que le bon jeu triomphe et que le meilleur gagne.
So now-
voici la suite du conte Le Crochet Magique, tiré du livre conte de l'atelier thérapeutique artistique, que vous pouvez trouver en vente à standard au prix de 12 euros.
Le temps a passé jusqu'au jour où le fils de Gourville s'est laissé embarquer par une belle blonde pulpeuse au regard de braise. Au volant d'une superbe Porsche rouge, décapotable, il est tombé raide amoureux et de la belle blonde et de la belle voiture. Mais à peine le pied dans le Porsche, le capot s'est soulevé d'un coup. Les chevaux vapeurs se sont transformés en vieilles carnes et la carrosserie flamboyante en vieille charrette brinque-ballante. Sous ses yeux ahuris, la belle demoiselle a perdu ses cheveux et ses rondeurs ont fondu comme neige au soleil. L'un coup a repris son visage effrayant. Et c'est depuis ce jour-là que les deux Gourville désespérés ont fermé les portes de leur cœur. Oh, tu sais, Liane, j'ai tout essayé pour empêcher ce jeune imprudent de monter dans cette voiture diabolique. L'hypnotisé, m'enrouler autour de ses jambes, impossible de l'arrêter. Alors, ne sachant plus que faire, j'ai utilisé mon pouvoir magique. Je l'ai mordu au gros orteil droit. Mais dans la précipitation, j'y ai laissé mon crochet de vie, de plusieurs vies. Et depuis, je me suis mise à vieillir prématurément et les deux Gourville m'ont jeté dans cette cave. Cependant, grâce à mon crochet, le fils de Gourville peut ressortir du monde des morts. Un fils ? Mes patrons ont un fils ? Et il peut revenir à la vie grâce à toi ? Seule une âme pure comme la tienne peut aller le chercher au pays de l'Ankou. Mais le chemin est long, semé d'embûches et d'épreuves terrifiantes. Bois, dis-moi ce que je dois faire pour le sauver. Une fois au pays de l'Ankou, tu tireras le crochet de son pied. Et alors, la vie reprendra son cours comme avant. On entendra de nouveau ses rires dans cette maison. Eliane se met en route sur le champ. Elle traverse des forêts, gravit des montagnes et arrive bientôt devant le fleuve noir. Un fleuve immense, de l'eau sombre à perte de vue. Comment traverser ? Elle cherche un pont. Rien. Elle marche encore. En amont, puis en aval, mais toujours pas de pont en vue. Épuisée, elle tombe à genoux sur le sol. Elle pense à renoncer. Quand tout à coup, elle voit devant elle, magnifique, le chat beauté qui l'observe. « Oh, belle dame, peux-tu m'aider à enlever mes bottes ? J'ai si mal aux pieds !» Eliane, heureuse de rendre service, s'exécute aussitôt et lui dit qu'elle ne trouve pas de solution pour traverser le fleuve. « Prends mes bottes, belle dame, ainsi tu pourras traverser. »« C'est gentil de ta part, mais comment vas-tu les récupérer ? Ne t'inquiète pas de ça, il me suffit de les siffler et elles reviennent à moi. » Sitôt dit, sitôt fait. Tout heureuse, Eliane poursuit sa route. Elle marche encore longtemps, des jours et des jours. C'est au milieu d'une forêt, alors qu'elle croyait s'être perdue, qu'elle aperçoit une lumière intense, éblouissante. Elle s'approche, et là, elle se retrouve devant un mur immense. Elle tend la main sur le mur. C'est froid, glacial même. Cette fois, Eliane est désespérée, et elle se met à pleurer. Ses larmes coulent sur ses joues, coulent si fort que très vite un lac se forme. C'est alors que le mouton du petit prince s'approche pour se désaltérer. Le mouton la remercie et lui explique comment franchir cette muraille. Eliane s'approche du mur de cristal. Il reflète son image fatiguée. Elle le fixe longuement, comme le mouton le lui avait conseillé. Puis, peu à peu, ses traits se détendent. Eliane sent ses forces revenir, son énergie de plus en plus vite, son visage retrouve toute sa beauté d'origine. Et le mur s'affaiblit jusqu'à devenir une simple ligne tracée sur le sol. Eliane le franchit rapidement et aussitôt le mur se reforme. Eliane poursuit allègrement son chemin, arrive devant une des marches qui semble descendre en colimaçon. Mais elle ne peut en voir le fond. Elle pose un pied sur la première marche et le retire aussitôt en hurlant de douleur. Les marches sont brûlantes, elle s'est brûlée. La fée Clochette, qui ramassait des herbes médicinales pour le royaume des fées, entend ses cris et s'approche toute heureuse de pouvoir enfin jouer un mauvais tour à l'Ankou. La fée Clochette se met à préparer une potion. « Bois, et légère tu seras !» Eliane obéit et sent pousser des ailes de papillon dans son dos. Puis, progressivement, son corps devient invisible.
Prenant son envol, elle dévale l'escalier et arrive au pays des morts. Sitôt arrivée, elle se met à tâter tous les gros orteils droits au nez et à la barbe de l'Ankou, qui, stupéfait, voit ce jour-là tous les gros orteils droits bouger les uns après les autres. Quant à elle, Eliane visite un à un les étages, puis les salles. Elle tâte inlassablement tous les gros orteils droits. C'est au 13e sous-sol, dans la salle 13, qu'elle sent enfin ses doigts et le crochet de Boaboa. Avec mille précautions, elle retire le crochet. Instantanément, Eliane et le fils de Grouville se retrouvent dans la cave de Boaboa. Eliane rend le crochet au serpent, et tous les trois sortent de la cave. Alertés par le bruit, les parents de Gourville accourent et retrouvent leur fils. La joie et le bonheur de se retrouver illuminent la cour. À peine son crochet remis en place, Boaboa retrouve sa jeunesse et le pouvoir de ses sept vies. Et Eliane, c'est avec le fils de Gourville qu'elle est allée dans le jardin pour s'asseoir au pied de l'arbre originel. Ce jour-là, une nouvelle pomme a été croquée et la vie continue.
Je m'en vais bien avant l'heure. Je m'en vais bien avant de te trahir. Je m'en vais avant que l'on ne se laisse aller. Je m'en vais avant que l'on ne puisse en rire. Je m'en vais en gardant toute ton odeur. Je m'en vais en te regardant dormir. Je m'en vais car l'on s'est vu voler. Je m'en vais avant que l'on ne puisse atterrir. Je m'en vais car l'on s'est tant aimé. Je m'en vais avant de te détruire. Je m'en vais pour que tu ne m'oublies jamais. Je m'en vais en te voyant sourire. Je m'en vais en croyant que tout est vrai. Je m'en vais avant de te découvrir. Je m'en vais bien avant de te décevoir. Je m'en vais bien avant de te trahir. Je n'ai aimé que toi. Je t'embrasse jusqu'à en mourir. Je n'ai aimé que toi. Je t'embrasse jusqu'à pour ne jamais m'assagir. Je m'en vais car tout est si léger. Je m'en vais en te regardant dormir. Je m'en vais pour ne jamais t'oublier. Je m'en vais sans même te l'écrire. Je m'en vais en croyant que tout est vrai. Je m'en vais bien avant de te découvrir. Je m'en vais pour ne jamais te décevoir. Je m'en vais bien avant de te trahir. Je m'en vais car l'on s'est vu voler. Je m'en vais avant que l'on ne puisse atterrir. Je m'en vais car l'on s'est tant aimé. Je m'en vais bien avant de te détruire. Je n'ai aimé. Jusqu'à en mourir. Je n'ai aimé que toi. Je t'embrasse jusqu'à en mourir. Je n'ai aimé que toi. Je t'embrasse jusqu'à en mourir. Jusqu'à en rire. Je n'ai aimé que toi. Je t'embrasse jusqu'à en rire. Je n'ai aimé que toi. tristesse jusqu'à en rire. Je n'ai aimé que toi. Je t'embrasse jusqu'à en rire. Je n'ai aimé que toi. Je t'embrasse jusqu'à
Écoutons une expression populaire qui ne vous laissera pas planter là.
Bon, t'arrives, je vais pas poireauter 107 ans.
Poireauter 107 ans. Cette expression signifie bien sûr attendre très longtemps. Mais pourquoi utilise-t-on le nombre 107 et pas 52 ou 46 ans ? En fait, il semblerait que la construction de la cathédrale Notre-Dame de Paris ait duré 107 ans. C'est de là que viendrait l'expression. Quant à poireauter ou faire le poireau, il faut savoir qu'au milieu du 19e siècle, l'expression était en réalité planter son poireau. Elle provenait sans doute de la locution rester planté, qui sous-entend l'immobilité et l'inactivité. Faire le poireau signifie que l'on reste droit et immobile à attendre longuement.
Enfin, les news de Standard.
L'atelier sculpture de Standard expose une dizaine d'œuvres à la maison prévôtale de Plouganou jusqu'au 16 août, dans le cadre du salon Art en Plouganou qui cette année rend hommage à Pierre Bonnereau, disparu en 1981. L'atelier peinture, quant à lui, expose en septembre du 3 au 30 au café Le Tempo à Morlaix.
Chers auditeurs, chères auditrices, nous nous retrouverons pour une prochaine émission au mois de novembre.